RCF. L'entretien de la semaine, Thierry Lyonnais.
L'épopée de Gilgamesh est l'une des œuvres littéraires les plus anciennes de l'humanité. Transmise oralement, elle fut gravée sur des tablettes d'argile en écriture cunéiforme vers le 18e siècle avant Jésus-Christ. Célèbre pendant plus de 2000 ans dans tout le Proche-Orient, cette épopée de Gilgamesh, roi d'Uruk, allait peu à peu disparaître dans les sables. Redécouverte au XIXe siècle, ce texte allait fasciner les Européens, notamment pour le récit du déluge, très proche du récit que l'on trouve dans la Bible. Diane de Sellier, bonjour.
Bonjour Thierry.
Depuis 30 ans, vous publiez de très beaux livres d'art consacrés aux textes fondateurs de l'humanité. Et vous publiez ces jours-ci l'épopée de Gilgamesh, illustrée par l'art mésopotamien, et un travail photographique remarquable de Jean-Christophe Ballot. Alors pour commencer, Diane de Sellier, une question que l'on pose toujours par rapport à ces textes anciens, Gilgamesh, un personnage historique ou un personnage mythique ?
Il est historique et mythique à la fois, c'est-à-dire qu'il y a un roi d'Uruk qui a véritablement existé en Mésopotamie, mais en même temps, son histoire, on ne la connaît pas bien et elle est certainement en grande partie légendée. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment elle a résisté au temps et comment ce roi qui était à la recherche de l'immortalité a trouvé non pas l'immortalité, mais l'éternité, car son histoire est encore racontée aujourd'hui.
C'est pour ça que vous dites dans votre introduction du livre, Gilgamesh relie le passé au présent par son humanité. En fait, il devient humain au cours de cette épopée.
Et il commence par être un roi cruel qui est très imbu de lui-même, qui maltraite sa population. Et puis, les dieux vont lui créer un ami, Enkidu. Et cet ami va devenir si cher à son cœur que quand il va mourir, à la suite de leur excès d'orgueil à tous les deux d'ailleurs, il va souhaiter ne pas connaître cette même condition et il va partir à la recherche d'Utanapishtim, le survivant du déluge. Et vous parliez du déluge il y a quelques minutes, ce qui est passionnant à dire pour le déluge, c'est qu'effectivement, tel qu'on l'a retrouvé sur les tablettes cunéiformes, c'est exactement le même récit que celui qu'on trouve dans la Bible. Alors oui, Gilgamesh est humain parce qu'il connaît les mêmes désirs, les mêmes peurs, les mêmes angoisses, les mêmes aspirations. Il fait preuve de courage et de toutes les vertus que l'on connaît aujourd'hui. Et donc il nous ramène véritablement à notre humanité, à nos désirs et à nos peurs.
Mais en même temps, il cherche l'immortalité. Et là, on ne peut pas penser à tout un courant aujourd'hui de transhumanistes qui aussi aspirent à l'immortalité.
Évidemment, on ne peut pas aspirer à l'immortalité aujourd'hui, mais c'est quand même une demande qu'ont énormément de personnes aujourd'hui ou de désirs qu'ils ont et ils doivent se rendre compte. Et Gilgamesh s'en rend compte que finalement, l'immortalité, on ne la trouve pas, mais une forme d'éternité et surtout de sagesse. Ce qu'il rencontre au bout de son chemin, c'est la sagesse. Et l'éternité, il la trouvera, comme je l'ai dit, dans le récit de ses aventures, mais également dans les murs d'Uruk qu'il a construit pour consolider sa ville lorsqu'il est devenu un bon roi au retour de son voyage. Et en Irak, vous trouvez encore aujourd'hui des vestiges des murs d'Uruk que vous retrouvez aussi d'ailleurs dans les grands musées européens qui ont des collections sur la Mésopotamie.
Alors nous en parlerons dans un instant, Diane de Sellier, pour parler des illustrations qui accompagnent ce texte. Je voudrais rester un instant sur ce texte. C'est une belle histoire d'amitié. Vous l'avez rapidement évoqué, mais c'est une très belle histoire sur l'amitié, de l'amitié.
Oui, c'est une histoire d'amitié comme on peut encore en connaître aujourd'hui, c'est-à-dire que les dieux vont créer un personnage de l'argile qui va venir combattre Gilgamesh pour essayer de contraindre un petit peu son orgueil. Et ils vont se rendre compte qu'ils sont exactement de la même force et ils vont tomber dans les bras d'un de l'autre et ils vont sceller ainsi leur amitié. Et ils vont réaliser plusieurs exploits ensemble, aller combattre le géant Humbaba dans la forêt et des cèdres, celui qui est absolument invincible. Ils vont réussir à le tuer et ramener tout le bois de cèdre pour construire la maison.
Mais ils vont réussir ensemble.
Et ils vont réussir ensemble et à deux, on est plus fort. C'est là un petit peu les Belges, le lion fait la force. Mais si vous voulez, c'est cette démarche-là qui va les unir plus encore. Et puis les dieux vont trouver qu'ils sont beaucoup trop orgueilleux. Et surtout, Gilgamesh va mépriser les avances de la déesse Ishtar, qui est la déesse tutélaire de la ville. Et donc elle va envoyer le taureau céleste qui va détruire la ville, qui va détruire les peuples. Mais ils vont venir à bout de ce taureau et être de nouveau victorieux.
Alors Diane de Célier, revenons un instant sur ce récit du déluge. C'est vrai que lorsqu'on le lit, et c'est ce qui m'est arrivé en le lisant, on est surpris par les similitudes. Bien sûr, le déluge, un homme qui monte sur un bateau, la colombe, bref, on retrouve énormément d'éléments du déluge de la Torah, de la Bible, ce qui veut dire que c'est ce texte mésopotamien écrit vers le 18e siècle avant Jésus-Christ, donc bien avant la Torah, qui aurait inspiré la Torah.
Je pense que oui. Je veux dire, on n'invente pas une histoire aussi précise du déluge en partant de rien. Et en fait, Gilgamesh est le premier récit de l'humanité, le premier aventure, la première épopée de l'humanité. Et donc, vous l'avez dit tout à l'heure, pendant 2000 ans, tout le monde considérait ce texte comme un très grand texte. Et forcément, ceux qui ont écrit la Bible s'en sont inspirés, même dans la construction du bateau et dans l'organisation du départ d'Utanapishtim et de son épouse.
L'entretien de la semaine, RCF.
Diane de Célier, dans cette épopée de Gilgamesh que vous venez de publier, il y a, comme toujours, dans le travail que vous faites depuis 30 ans maintenant, une résonance entre ces textes fondateurs de l'humanité et puis des illustrations, et le mot est faible, qui vraiment accompagnent ce texte. Là, vous avez choisi de montrer des œuvres d'art de la culture mésopotamienne, mais pas uniquement. Alors, on va voir le travail photographique que vous avez demandé à Jean-Christophe Ballot de faire d'abord. Vous êtes parti avec lui, je dirais, sur les traces de Gilgamesh en Irak.
Oui, alors si vous voulez, d'abord pour parler du travail photographique, je n'ai jamais fait de livre avec de sculpture, parce que quand vous faites une photo de sculpture, il y a une distance qui se fait entre l'objet et le regardeur. Et donc, comme tous mes livres, on rentre vraiment dans l'image, il y a une émotion énorme à voir les peintures comme si elles étaient accrochées dans un musée. Avec la sculpture, vous avez toujours le regard d'un photographe, une distance. Et le travail de Jean-Christophe Ballot, qui est vraiment un peintre de la lumière et un peintre de la sculpture, il arrive à donner à chacun des personnages et à chacun des objets qu'il photographie une immédiateté, et en même temps, on lit les sentiments sur le visage de Gilgamesh, d'Enkidu, on voit le déluge, on voit la prostituée qui va venir séduire Enkidu pour l'entraîner à s'humaniser un peu. On voit vraiment et on ressent les mêmes sentiments en regardant ces sculptures photographiées par Jean-Christophe Ballot qu'en regardant un tableau.
Mmh. Alors ces sculptures, excusez-moi, vous les avez trouvées, entre guillemets, au musée du Louvre, bien sûr, vous avez été guidé par Ariane Thomas, hein, qui est la directrice du département des antiquités orientales, mais pas uniquement, vous avez été dans d'autres grands musées.
Alors, nous sommes allés dans les trois grands musées qui ont des belles collections d'art mésopotamien, historiquement, un musée au XIXe siècle, c'est le musée Pergame à Berlin, le British Museum à Londres et le musée du Louvre, où nous avons pris certainement la plus grande partie des œuvres, et également à Bagdad.
Mais avant musée national d'Irak.
Au musée national d'Irak. Mais si vous voulez, le travail que fait Jean-Christophe Ballot est un travail incroyable. D'abord, on fait sortir, on doit travailler les jours de fermeture du musée ou dans des organisations très, très organisées, parce que les objets sortent de leur vitrine et il va créer un studio pour pouvoir disposer la pièce, trouver les angles, apporter ses éclairages et faire véritablement un travail de création. Il reste à peu près une heure, et quand je dis une heure, c'est 60 minutes, à regarder l'œuvre, à s'en inspirer, à la comprendre. Pendant ce temps-là, on lui lit les textes pour voir un petit peu quelle est l'ambiance et l'émotion qui doit ressortir, et puis après, il va prendre entre une demi-heure et une heure pour faire sa photo. Donc chaque photo qu'on retrouve dans le livre, c'est 2 heures de travail de la part du photographe.
Et ce qui est très impressionnant quand on regarde ces photographies telles que vous les avez imprimées, c'est la qualité du noir et blanc, puisque toutes ces images sont en noir et blanc. Souvent, vous présentez plutôt des peintures en couleur, des gravures en couleur, mais là, tout est en noir et blanc, mais avec une qualité qui est presque celle de l'héliogravure, comme on pouvait voir dans les anciennes éditions Zodiac, par exemple, sur la Roman.
Voilà, nous avons travaillé avec Jean Didier, qui est un fabricant qui a connaissance de l'impression extraordinaire, et les œuvres ont été imprimées en plusieurs couleurs, c'est-à-dire que ce que vous voyez, c'est du noir et blanc, mais il y a 2 couleurs de noir et 1 couleur de gris. C'est-à-dire que chaque œuvre est vraiment détaillée le plus profondément possible dans ses nuances. Et on a un livre entièrement en noir et blanc. Pour nos 30 ans, on a fait 3 premières. Un livre entièrement en noir et blanc, un livre de sculpture et un livre avec un photographe contemporain. Vous voyez, c'est un grand événement aussi. Mais ces photos en noir et blanc, on a l'impression que c'est de la couleur, tellement elles sont vivantes, lumineuses et nuancées.
Alors Diane de Cellier, vous êtes partie en Irak, sur le terrain, avec Jean-Christophe Ballot, pas uniquement pour aller dans le Musée national d'Irak. Vous avez été aussi dans des ruines que vous nous présentez, photographiées, pleine page. J'aimerais que vous nous racontiez en un instant ce voyage en Irak. C'est un défi. Alors,
c'était un énorme défi et je pensais que c'était un pays totalement inaccessible. Et je me suis retrouvée dans le pays le plus accueillant qui soit possible, même s'il est considéré en zone rouge, même si tous les musées sont fermés, si tous les sites archéologiques sont fermés. C'est un pays absolument fabuleux et nous avons pu y aller grâce à des autorisations du ministère de la Culture iranien. Mais j'avais besoin de fouler le sol de Gilgamesh. J'avais besoin d'aller en Irak, dans le musée national de l'Irak, voir quelles étaient les œuvres qui étaient encore là. Et c'est un musée d'une beauté absolument inouïe et on a été formidablement bien accueillis. Et dans le sud de l'Irak, j'avais besoin de fouler le sol mésopotamien. Et quand vous êtes à Uruk, par exemple, et que vous dites c'est là où Gilgamesh a vécu il y a plus de 5000 ans, et que vous êtes en train de fouler le sol avec des tessons de poterie, des objets, et que vous voyez ces ruines et cette immensité, c'est très impressionnant. Et j'ai voulu mettre tout le récit de Gilgamesh avec les objets et les sculptures au cœur d'un écrin qui sont ces paysages mésopotamiens de toute beauté.
Pour terminer, Diane de Cellier, je sais que vous lisez plusieurs fois ces textes pour vous en imprégner. Que retirez-vous personnellement de votre rencontre avec Gilgamesh?
Beaucoup d'humanité et puis aussi beaucoup de modestie et d'humilité. C'est-à-dire qu'à un moment, la cabaretière va dire à Gilgamesh « Ta recherche d'immortalité, ce n'est pas possible, ce n'est pas accès aux hommes, mais réjouis-toi de la vie que tu as et du plaisir de la femme que tu tiens dans les bras et de prendre un enfant par la main. » Et ça, ce passage-là, à lui tout seul, pour moi, résume ce qui est le berceau de notre humanité et le berceau de l'humanité.
Merci beaucoup Diane de Cellier. Je rappelle bien sûr le titre de ce livre, L'épopée de Gilgamesh, qui vient d'être publié aux éditions Diane de Cellier avec un travail remarquable du photographe Jean-Christophe Ballot. Merci de votre accueil.
Merci Thierry.